Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Adrien Aigouin, Pierre Dorian.
L'Intégral Sport sur RMC avec Marie Zémon GP et Adrien Aigouin, ça discute en coulisses, ça parle de ces championnats d'Europe, ouais. C'est fantastique. Salut Marise.
On est dans la passion, oui. Bonjour à tous.
Non, mais hier, il y avait une super soirée quand même.
Salut Pierrot, ouais, salut Marise. Magnifique.
Très régalé.
Très beau.
Magnifique.
J'ai eu du mal parce que normalement, le soir, je fais mes abdos et mon yoga, mais là, j'avais du mal. Hein,
devant... Tu peux le faire devant les courses.
Mais c'est ce que j'ai fait, mais c'est pas hyper pratique. Tu vois, quand tu fais le chien tête en bas et que tu veux regarder le 100 mètres en même temps, c'est compliqué.
Tu fais le chien tête en bas, toi Pierrot, quand tu regardes.
C'est que 10 secondes l'athlète. Le 100 mètres, Marie, donc tu te remets à l'endroit.
Mais justement, après, le yoga, les postures sont beaucoup plus longues.
Alors en tout cas, hier, il y a eu une grande soirée, on va y revenir bien sûr, notamment sur les 200 mètres masculins et féminins, et puis aussi sur la première médaille française avec notre premier médaillé qui sera en direct tout à l'heure. Une histoire incroyable, celle donc du français Jules Pommery qui était quatrième et qui a récupéré la médaille de bronze. On va vous raconter tout cela en détail puisqu'il sera notre invité. Au programme aussi, le 110 mètres haies. Alors c'est une journée très attendue pour la France parce qu'il y aura 4 Français au départ des demi-finales. Les 4 ont une chance pour le podium. On espère une médaille d'or. Pourquoi pas? Et pour parler 110 mètres haies, nous avons invité Ladji Doucouré, le champion du monde 2005. Et puis alors attention, attention, parce que là on a peut-être encore découvert le nouvel artifice qui va permettre de gagner des centièmes à tous ces champions. Les pointes carbone Adidas sont dans le viseur et notre enquêteur, l'inspecteur Renaud Longuèvre, va tout nous dire. Renaud, il est à bloc sur les pointes en carbone.
Oui, mais tout le monde les fait maintenant. Donc
Oui, mais sauf qu'il y a une marque qui a pris de l'avance et ça va peut-être encore être une nouvelle polémique.
Oui, oui, oui.
Dans le monde de l'athlétisme, il va nous expliquer tout ça.
Mais bon, on pourra aussi expliquer que certains ont gagné les championnats du monde il y a 3 semaines sans pointe carbone ou quoi que ce soit.
Alors, ça sera au programme en tout cas de cette première heure consacrée 100% à l'athlétisme. Et puis ensuite, eh bien, il y aura bien sûr le foot avec Roland Courbis. Cristiano Ronaldo vous déçoit-il? Cristiano avec son attitude boudeuse à Manchester United. Et puis enfin, la natation. Nous aurons bien sûr notre duo de choc, Julien Richard et Sophie Camoun. Et puis le DTN de la natation française, Julien Issoulier, avec ses 10 médailles déjà au compteur. Et puis il y en aura peut-être une ou deux de plus ce soir. Ce sera aux alentours de 17h. Alors voilà l'ensemble du programme. Il y aura bien sûr à suivre des compètes en direct avec Morgane Maury. Salut Morgane.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Le cycliste sur route avec les contre-la-montre aujourd'hui.
Oui, le contre-la-montre féminin qui va se terminer dans quelques minutes, Pierre, dans une dizaine de minutes pour l'instant. C'est la néerlandaise Réjeanne Marcus qui est en tête devant une française, Juliette Labousse, qui a terminé quatrième du dernier Tour de France il y a 3 semaines. Mais les cadors, les avions de chasse du contre-la-montre n'en ont pas terminé. Marlène Reusser, la Suissesse, Hélène Van Dijk, la néerlandaise, championne du monde en titre. Et peut-être la française Audrey Cordon-Rago, championne de France du contre-la-montre. Le résultat dans quelques minutes. Pour l'instant, le podium provisoire. Marcus devant Labousse, la française, 33 secondes derrière, mais les meilleurs ne sont pas encore arrivés.
Alors, on n'oublie pas, journal moyen, 16h40, Kikadi, 17h40 pour gagner le maillot de l'équipe de France de basket et des places de match pour France-République tchèque. Mercredi prochain, qu'est-ce qu'on a dans le journal moyen?
Journal moyen, 3 personnes qui comptent dans le monde nous font l'honneur d'être dans le journal moyen. Oui, oui, Daniel Riolo, Nelson Montfort,
ouais,
et Elon Musk.
Ah,
je ne sais pas qui compte le plus. Qui est le plus influent dans le monde d'aujourd'hui. Il y a un joli trio, joli podium.
Allez, voilà le programme, direction Munich, tout de suite. Où l'on accueille Renaud Longuèvre et Aurélien Thiersin. Salut messieurs.
Salut à tous.
Salut à tous.
Salut.
Grande soirée d'athlé. Est-ce que Aurélien a ses pointes carbone, Renaud, au pied?
Ouais, il a ses pointes carbone magique, ultra magique, mais ça marche pas sur lui, je sais pas pourquoi.
Je suis toujours champion de France des médias 200 mètres en 34 secondes. Hein. Ouais. Ça faut retenir ce chrono.
C'est bien ça, ouais. 100 mètres en 34 secondes?
Ah, c'est catastrophique.
Sur la piste d'athlétisme ou under l'eau?
Non, sur une piste indoor.
Ah non, mais c'est nul.
Non, mais ce que tu dis, c'est pas une
34
blague.
34 secondes, Aurélien.
Mais la concurrence est catastrophique. Non, mais je peux te permettre de relâcher à 60 mètres de la fin.
Je vais t'entraîner, ça va être vite vu.
Ah bah,
ça,
avec plaisir, avec plaisir.
Parce que François-Xavier de Châteaufort, elle est plus vite que toi. Donc là, ça va pas,
Marie,
quand même.
Bah, il pèse 30 kilos de moins.
Oui,
que moi.
Mais c'est un marathonien.
Marise, pour quelqu'un qui n'est pas athlète, Pierrot et moi, par exemple, tu nous entraînes
100 mètres là.
Un mois.
Non, mais même pas 100
entraînements. Alors, sans entraînement avec nos.
Vous ferez moins de 34 secondes.
Moins de 34 secondes.
J'espère quand même.
Mais c'est quoi moins de 34? On fait quoi? On fait pas 20 non,
il faut. Bah, moi, je... moins de 34 secondes, imagine.
Moi, je peux voir d'où on part d'abord. Je veux voir
mais
votre
non,
niveau
non, Renaud, un vrai. De... Ah, le niveau, tu veux dire. Parce que je veux dire, du coup, on part de la ligne.
Alors.
34 bien, secondes, si, j'imagine. Si aujourd'hui, il va le 56, moi, je m'avance pas pour qu'il fasse 34.
Non, mais attends, sérieusement, ça voudrait dire qu'il serait incapable de faire un 100 mètres en moins de 16 secondes?
Pierrot,
quand même. Renaud, quand même.
Une idée combien on fait au 100 mètres 14 secondes.
Non mais toi en plus Pierrot, Adrien, je suis pas sûr parce qu'il est, il part de très loin parce qu'il était
non,
pas
il
du
court,
tout
il
sportif.
Court un peu Adrien.
Non, il court, il fait du demi-fond, il fait même pas, il fait du grand fond. Toi, t'étais un peu
j'étais
plus
pas du
t'étais
tout sportif,
un peu plus
sportif. Mais malade Marie, j'ai fait du sport toute ma vie.
Mais quel type de sport?
Je fais du tennis, du foot et de la course à pied, mais Marie,
c'est une découverte. Mais écoute, excuse-moi, ça fait 17 ans qu'on se fout de toi dans le Moscato Show.
Mais c'est un personnage, c'est du show, c'est pas la réalité.
Jamais vu en 17 ans faire de sport. On est parti sur des sites ensemble. Tu m'as vu faire du footing. Tu m'as vu faire des abdos. Je ne t'ai jamais vu.
Bon, alors,
par contre, on n'est peut-être pas là pour régler nos comptes de
que le Moscato Show retour lundi 15h. Hein.
Vous ferez moins de 35.
Ah, j'espère
allez,
quand même.
Hein. À 32 secondes, je vous le vends tout de suite.
Alors, un mot sur le programme avant de démarrer sur le 110 mètres haies, parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui, Aurélien.
Ouais, exactement. On a des chances de médailles dans plusieurs disciplines. La perche féminine à 20h avec deux Françaises, Margot Chevrier et la toute jeune Marie-Julie Bonin. Le triple saut homme à 20h15, finale aussi avec deux Français, Jean-Marc Ponviane qui était déjà finaliste à Eugene et le jeune Enzo Audebar. Ensuite, à 20h30, demi-finale du 110 mètres avec donc les quatre Français, Sacha Zoya, Pascal Martino Lagarde, Aurel Manga et Juste Kouaou Maté. On espère qu'ils passeront tous les quatre en finale. Ce sera à 22h22 pour clore la soirée entre deux la finale du marteau féminine avec Alexandra Tavernier et puis le 400 mètres plat final avec Thomas Jordier.
Alors donc aux alentours de 22h20 il y aura cette finale du 110 mètres haies qui est très attendue par l'équipe de France puisque vous l'avez compris c'est probablement l'épreuve sur laquelle nous avons le plus de chance. Quatre athlètes au départ parce que Pascal Martino Lagarde en tant que tenant du titre était invité, donc plus trois quotas français, ils seront quatre. Ladji Doucouré va nous rejoindre dans un instant. Je vous donne quand même le pédigré des quatre. Donc Pascal Martino Lagarde, le champion en titre, Sacha Zoya, champion du monde junior, qui est un nom dont on parle déjà depuis quelques saisons, qui démarre en senior, Juste Kouaou Maté et Aurel Manga. Est-ce que Ladji nous a rejoint, Renaud? Est-ce que tu as ton protégé à tes côtés?
Il est là, le poulet, le poulet hurdler. Vous savez, c'était
son email,
son première adresse mail. C'était le début d'internet à l'époque.
Avec MSN.
Et lui, c'était poulet hurdler. Ouais. Voilà. Il est là. Poulet hurdler est là.
Vous avez fait quelques années ensemble tous les deux là. Hein.
Oh, quelques-unes.
On s'est envoyé des POC. Hein.
Quelques petits trous.
Des whiz.
Ah, Renaud, je ne résiste pas, avant de démarrer quand même sur la course de ce soir, à ce que tu nous parles en quelques mots de Ladji, le hurdler. Dis-nous quel champion vient de nous rejoindre sur RMC quand même.
Bah, il a bien changé. Hein.
Il a bien changé. Le poulet, c'est. Le poulet
s'est engraissé.
Le poulet est devenu dodu. Mais dodu, non, c'est père dodu aujourd'hui.
Avant, c'était poulet bicyclette. Maintenant, c'est poulet tout court. C'est pour ça.
Non, Ladji, on s'est connus. Il avait 13 ans, le petit pépère. Moi, j'avais 25 ans et je débutais comme coach. J'ai commencé très tôt. J'ai vite compris que j'étais un tocard à la perche et que je ferais jamais de championnat du monde, truc comme ça. Et je suis descendu dans l'Essonne parce qu'ils avaient besoin d'entraîneurs. Et puis je suis tombé sur le petit poulet. Là, il avait 13 ans. Et un jour, l'entraîneur de l'école d'athlétisme dit il est bon sur les haies, il est bon. Il lance pas trop mal son lancer de poids, mais il faut un saut. Alors il va faire de la perche avec toi. Et je lui ai mis une petite allumette dans les mains. Ça s'appelle une allumette. Aujourd'hui, je pense que l'allumette, il la pète en 15 morceaux. Et ça a commencé comme ça, hein, mon
petit
poulet.
Et son truc, c'était les haies quand même. Hein.
Et c'était le vendredi, la perche.
Voilà. Ah, c'était le décathlon aussi, son truc. Il a tout fait, la G, tout.
Le jour de la mosquée. Le jour de la mosquée, la perche.
J'ai déjà lancé du marteau, j'ai pas fait 400 haies et c'est tout.
La marche.
Alors, en tout cas, j'ai fait en initiation.
Après, je pense que les gens, ils doivent s'en rappeler, c'est que la G a été champion du monde.
Champion du monde
du 110 mètres. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote avec Marie-Zéve en GP, c'est-à-dire que quand la G est champion du monde, je vais ensuite au post-com des RMC avec Maryse, et puis il y avait Florian Jean-Toi l'époque.
Oui, Flo.
Et je fonds en larmes, et Maryse dit oh, mais Renaud, t'es trop émotif et tout. Et en fait, je pleurais parce que j'avais Linda Ferga qui était en même temps en train de se faire opérer du tendon d'Achille. Lille, oui, avec par Eric Rolland, qui est devenu le médecin du PSG. Ouais,
ça... Alors Ladji, en tout cas, tu as perpétré une tradition française sur le 110 mètres haies et tu as des successeurs hein, avec Pascal Martino Lagarde, donc déjà lui champion d'Europe, Sacha Zoya, donc on annonce comme un phénomène depuis un moment, qui seront donc épaulés de Just Kouaou Maté et Aurel Manga. Alors première question, Ladji, est-ce qu'il y en a,
ça va, c'est ça,
est-ce qu'il y en a un de ces quatre-là qui est au-dessus du lot et qui a peut-être plus que les autres une raison de croire à la médaille d'or?
Bah, au-dessus de l'autre. Bah, déjà, pour revenir à ce que tu disais juste avant, on a la chance d'avoir un gros vivier parce qu'on en a laissé quand même deux à la maison. J'ai une pensée à Willem et à Dimitri Bascou.
Ouais, donc, Willem Belossian, Dimitri Bascou. Ouais,
qui étaient. Voilà. Qui sont toujours bons. Après, pour revenir à ta question, moi, je dirais que celui qui a la. Qui a le plus de chance, je dirais que c'est celui qui a. Quelle expérience, c'est Pascal. Pascal qui revient en forme, ouais, et qui connaît déjà tous ses championnats. Après, il faut faire attention à la fougue de ces jeunes
et l'esprit revanchard de Dorel. Ils sont comme toi, ils n'ont pas de respect en fait. C'est ça le problème.
Non, c'est
excuse-moi Ladji, mais alors là, tu parles comme un entraîneur de foot. Parce que Ladji, ce que vous avez pas dit, c'est que c'est l'entraîneur de Sacha Zoya. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met la pression sur les adversaires.
Non, là vous posez la question à Ladji Doucouré, l'ancien champion. Vous posez pas la question à l'entraîneur. On est d'accord.
Mais tu vois Renaud, moi je suis d'accord. Je vais exactement sur le même plan que Ladji, qui effectivement a pris de la bouteille et a juste oublié un truc, parce que c'est vrai que moi aussi instinctivement j'aurais tendance à dire que Pascal Martino, quand il renaît de ses cendres, en général c'est pas pour rien, et vu le chrono qu'il a fait pour se qualifier en finale, il est là, c'est-à-dire qu'il est revenu, il n'y a aucun doute, il a beaucoup plus d'expérience et il est comme Sacha, c'est-à-dire qu'il adore la grande compète aussi, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas là. Mais il y a un truc quand même que tu as oublié, Ladji, quand je dis que tu as oublié comment tu étais à 20 ans, c'est qu'à 20 ans t'avais zéro respect pour les anciens et t'arrivais pour tout bouffer et tu as tout bouffé. Et Sacha, il est exactement comme toi. Donc j'avoue que mon cœur balance, quoi.
Alors on va pas oublier les deux autres, hein, Jusqu'au Oumaté et Aurel Manga, mais d'abord on va les écouter les deux, Pascal Martino Lagarde et Sacha Zoya. D'abord, Pascal Martino Lagarde sur cette densité en équipe de France et l'ambition de ces quatre-là. Écoutez-le.
Alors là, pour le coup, on a vraiment une équipe de France exceptionnelle. Là, alors habituellement, effectivement, on est trois. J'ai la chance d'avoir eu un access avec le titre de champion d'Europe. Donc là, on est quatre Français. Et on n'est pas quatre petits Français. Parce que non seulement notre nation, d'habitude, a toujours des bons hurdleurs, mais en plus, là, on a... Donc on est quatre en dessous les 13-30. Et tout ça, tous ces chronos-là, ça va en finale. Donc il y a la possibilité, même la probabilité, que vous voyez la moitié des couloirs en finale qui soient bleu, blanc, rouge. Et après, va falloir faire le travail en finale. Quoi.
Alors ça, on l'espère, ce serait dans le meilleur des scénarios. Maintenant, plus individuellement, Sacha Zoya, qui a raté ses mondiaux, en tout cas qui est sorti en demi-finale, a quand même un excellent temps. Je crois que c'est le meilleur temps des engagés, Renaud.
Ouais, temps égalisé.
C'est ça. Avec l'Espagnol Asier Martinez, qui est coaché par un Français. Et ouais, à Pamplune. Alors, c'est pas assez su et connu, mais l'école française
avec s'exporte. François Béo Ringham, qui était mon partenaire d'entraînement, puisque c'est un ancien sauteur en hauteur, François, qu'on appelait Tchad, de façon très originale, parce qu'il était originaire du Tchad.
Alors du coup, Aurélien Tiercin lui a demandé à Sacha Zoya si son échec des mondiaux avait un peu fait redescendre ses ambitions. Est-ce que le discours est toujours le même? Voici la réponse de Sacha Zoya.
Ouais, bon, c'est pas grave, mais aussi je suis tout le temps quelqu'un, c'est pas assez. Et bon, en train de faire les chronos que j'ai fait aussi, ça m'a un peu tapé dans la tête. Mais bon, c'est l'expérience et tout ça. La revanche, je pense, j'ai montré que je suis toujours présent à Monaco, en train de faire un petit 13-21. Et bon, faut aller plus vite dans les championnats, je sais ça c'est sûr. Mais je pense que je peux y faire. Et bon, encore comme la dernière fois, n'importe quel championnat vise la médaille d'or et on va attaquer ça tout le concours. Hein.
Il dit les chronos.
Là sur le coup, il a joué l'entraîneur aussi. Hein. Non, je rigole.
Non, mais il dit quand même. Il y a un mimétisme. Je sais pas si t'es d'accord. Non, j'ai l'impression d'entendre Ladji il y a quelques années. Dans le côté fun, dans l'analyse, dans le débit de parole, avec un petit accent en plus.
Et sur la séance d'entraînement là que j'ai vu dimanche, j'ai même vu des attitudes techniques de toi.
Bah
après c'est logique.
Pourquoi changer certaines choses qui marchent.
marche pas mal. Ouais.
Bonnes, qui sont
pour les non-spécialistes, Renault, c'est quoi le style, bah, Sacha Ladji?
Le pied, la capacité à faire avancer le bassin, à faire glisser le bassin au-dessus de la haie sur un axe horizontal et d'attaquer à la haie, non pas pliant en deux, mais
un grand étirement.
Voilà, on l'a. Enfin, ouais. Moi, je l'ai appris avec Jacques Piacentard, hein, puisque j'ai appris les grâce à Pia. Et puis, j'ai essayé de transmettre ça à l'AGI. Puis c'est vrai que maintenant, c'est assez marrant de voir que les
réglages
comme ça.
Et le fameux cassé du renard qu'on n'a jamais oublié, qu'ils ont tous les deux.
Comment t'expliques son échec, on peut dire, au championnat du monde?
Ah, championnat du monde. Après, je pense que c'est un manque d'expérience, manque de confrontation, manque de plein de choses. Sacha, voilà, il a un peu galéré en début de saison, je dirais à Genève. Il se fait une petite fissure au genou et la stratégie, c'est essayer de lever le pied en essayant de soigner cette gêne. Donc il met pas beaucoup les pointes et on essaie de trouver la compétition qui le permettra de se rapprocher des minima. Et il fait 49 à Genève. On fait une séance par semaine spécifique, c'est pas assez. On va à Paris, on tente le one shot. Il fait 40, donc on est un peu déçu. Donc il faut arriver aux France avec le couteau entre les dents et en se disant c'est soit fin de saison, parce que les trois qui vont faire champion de France ont pensé aller faire les minima et la saison s'arrête pour toi, ou soit il faut que tu casses tout. Donc on tente, ça passe bien. Il fait deux belles courses, manque de spécifique. On arrive à Eugene et puis on, je vais pas dire qu'on met les bouchées doubles, mais on essaie de faire en sorte qu'il soit prêt, sauf que il y a trois semaines où on bricole, je dirais. On essaie de d'éteindre un peu certains feux au niveau du genou et puis ça ne loupe pas, tout simplement. Quand tu passes de trois semaines quatre séances en trois semaines à une semaine, trois séances et demie, à un moment ton corps il te dit stop. Sauf que si ça passait, on était des génies. Ça passait pas, là on est des tocards parce qu'on s'arrête en demi-finale et il est sixième mondial et il est pas capable d'aller en finale. Donc on apprend de ça, on se dit on a tenté, maintenant la gêne elle part tout doucement. Aujourd'hui il s'en plaint pas, j'espère que ce soir il va s'offrir une bonne neuvième course de sa carrière, une bonne dixième tout simplement.
Alors Pascal Martino Lagarde, Sacha Zoya, il y en a deux autres, Juste Kouaou Maté et Aurel Manga. Qu'est-ce qu'on attend d'eux exactement, Renaud? Ils sont aussi bien placés que les deux autres ou pas pour être sur le podium?
Chronométriquement, ils sont un petit peu en dessous. Par contre, Juste Kouaou Maté, il a eu un très beau comportement au championnat du monde. Oui. Il était vraiment tout près de passer en finale. Ça s'est joué à rien. Donc, je pense que lui, il peut avoir de l'ambition. Sa dernière sortie à Monaco était pas probante. Sacha vraiment l'a bouffé. Ils étaient côte à côte. Mais ça veut rien dire. C'est un championnat.
Oui, je pense que c'est un garçon de championnat.
Aurel Manga, c'est finale olympique. Finale olympique, c'est pas rien. C'est un garçon qui répond présent, qui délivre. Il y a des médailles dans les championnats du monde en salle. C'est une grosse expérience. Donc, ils ont tous l'ambition de la médaille et de la gagne, je précise.
En fait, je crois qu'on se rend pas compte à quel point cette discipline est dingue en France. C'est-à-dire que dans le Landerneau de l'athlétisme, qui est pas son meilleur niveau depuis 2019, on rame. Il y a deux épreuves qui font figure d'extraterrestres, c'est le saut à la perche et encore plus les chez les hommes, parce que les filles depuis quelques saisons on a un petit peu plus de mal, mais il y a eu aussi des énormes périodes. Quand on se rend compte qu'on laisse à la maison un médaillé olympique ou encore Willem Belossian, qui lui aussi a déjà glané un certain nombre de médailles sur les podiums européen, en salle, à l'extérieur, etc. C'est dingue. En fait, c'est complètement dingue. J'en profite d'ailleurs pour embrasser Dimitri Bascou, qui sera mon coach à la rentrée dans mon club.
Tu reprends la compétition donc, Marie, c'est une info, il va t'entraîner, c'est ça?
Pas vraiment, non.
Déjà soigné la peau névrose. Hein.
Il aurait bien du mal à tirer quoi que ce soit de moi.
Après, évidemment.
Marie, faut arrêter la pliométrie après 50 ans.
Ah non, je fais plus du tout de pliométrie.
Je
précise bien qu'il sera coach dans mon club, dont je suis présidente, OGA Noisy-le-Grand.
Quand on regarde le tableau, le plateau plutôt de ce 110 mètres, qui est le favori si on prend les autres nations? Est-ce que c'est un Français ou est-ce qu'il y a quelqu'un? D'autres.
C'est l'Espagnol.
L'Espagnol.
Ouais. Il est tête de liste au niveau du temps. Il est médaillé au championnat du monde. Il a l'expérience. Il vient d'être champion d'Europe. La saison dernière, moins de 23. Pour moi, le favori, c'est lui. Il vient en chef. Et même s'il a même chrono que Sacha, mais il sait qu'il a quatre Français qui vont vouloir le détrôner. Mmh. Il y a le Il y a le Polonais qui est là. Il va falloir faire attention à tout le monde. Il faut passer les tours, mais pour moi, le favori reste, ça reste lui.
Assez. Alors peut-être à la différence. Moi, je suis d'accord avec toi, sauf que il a sorti un énorme résultat au championnat du monde et que il sera peut-être dans cette espèce de faille, tu sais, post-championnat où c'est difficile de se remotiver. Mais c'est vrai qu'il est jeune et que finalement, c'est une expérience supplémentaire, parce que quand tu sors avec un titre européen et que derrière tu confirmes un titre européen chez les jeunes et que derrière tu confirmes avec une médaille au championnat du monde, c'est juste énorme. Et d'ailleurs,
j'ai parlé avec François, son coach, parce qu'on est dans le même hôtel, et justement je lui ai demandé et en fait ce gamin il répond très très bien dans la tête à tous les championnats. Il était en finale à Tokyo, et ce que François m'a dit, c'est que c'est même pas François mentalement qui s'occupe de sa prépa mentale. Le gamin lui-même, il a dit à son coach, il lui dit, tu sais quoi, au championnat d'Europe, je me foire, je m'en fous. Et ça, c'est l'idéal, parce que le mec, il dit, quoi qu'il arrive, ma saison, elle est réussie. Ouais. Je suis médaillé au championnat du monde. Donc, il se délaisse lui-même de la pression. Donc, faut faire attention, parce que c'est vraiment quelqu'un qui répond très bien en grand championnat.
C'est un vrai grand concurrent,
d'accord avec la G. Et il a refusé de faire Monaco parce qu'il prépare les championnats. Après, faut faire attention aux Suisses. Joseph vient de faire 13-20 en même temps que le meeting de Monaco.
Donc Espagne, Pologne, Suisse et 4
Français. Ouais, donc en fait, on va faire attention à tout le monde, hein, si tu traduis. Parce que là, on en a 8 déjà.
Là, c'est le coach qui parle.
Moi, je dis les Français contre Martinez. Voilà, point barre.
Là, j'ai une question pour le champion. Et le coach, Ladji, ça fait 17 ans que tu es devenu champion du monde sur le 110.
Déjà 17 ans.
Quelle est la principale évolution que tu as notée dans ta discipline? Qu'est-ce qui est le plus flagrant? Est-ce qu'il y a eu de grandes évolutions dans la façon de pratiquer
le
110?
C'est le départ. Départ en 7.
Oui, de plus en plus de gars.
Que la densité des personnes qui couraient en 13-50 a gagné 2 dixièmes et ils s'approchaient.
Je vais juste expliquer aux auditeurs. C'était qu'avant, on partait en 8 foulées. Et puis, les hurdlers maintenant sont tellement puissants, tellement grands, chez les filles aussi d'ailleurs, que tu as été obligé d'enlever une foulée. Mais du coup, c'est encore plus puissant, ça part beaucoup plus fort. Et donc, le départ a énormément changé.
Alors, juste pour terminer sur ce 110 haies, qui est un grand moment attendu pour l'équipe de France, je vous demande juste un petit pronostic chacun. Combien de Français en finale et puis qui est champion d'Europe?
3 sur 3 en finale.
3 sur 4.
Ils sont 4, oui. Oula. Alors attends, laisse-moi bien réfléchir. 4 sur 4 en finale.
4 sur 4 en finale et champion d'Europe.
Beaucoup plus dur.
Le cœur ou la raison?
Beaucoup plus dur. J'aurais presque tendance à mettre l'espagnol.
Ok.
Laisse-moi bien
alors,
réfléchir.
Si tu veux changer, réfléchir.
Pascal,
allez. Ladji.
Qui, le coach ou.
Voilà, celui que tu veux. Le cœur.
Convoque celui que tu veux.
Faut passer le premier tour, après on verra.
Voilà. Okay.
Ça c'est le coach.
Bah oui. Renaud, on est là pour tout casser, mais maintenant il faut passer.
Je vais parler pour la parce que je sais qu'il osera pas le faire. Moi, je dis comme Maryse, les 4 Français en finale et une victoire de Sacha Zoya.
Oh, Sacha Zoya, 20 ans, ça serait beau. Merci beaucoup, Ladji.
À bientôt
sur RMC, peut-être dès demain.
Je te retiens avec tes 17 ans là quand même.
Ouais, c'est la réalité, hein, c'est comme ça.
Ça m'a mis une claque aussi, parce que j'y étais, j'avais l'impression que c'était hier.
C'était un grand moment aussi de.
Là, j'ai toute dernière question en 10 secondes, parce que je sais que ça te tient à cœur et ça fait partie de ton quotidien. Le PSG de Galtier, il gagne la Ligue des Champions cette saison?
Je sais pas, ça dépendra de l'attitude des joueurs pendant toute la saison. Là, ils sont contents de revenir sur le terrain. On parle de beaucoup de d'attitude. Ça dépendra de ça, en fait. On sait très bien que le défaut de mon club de cœur, hein, Renaud, écoute bien, c'est l'attitude sur le terrain et dans les vestiaires. C'est pas le potentiel papier, quoi. Donc à voir.
Ladji Doucouré dans l'Intégral Sport sur RMC. Merci beaucoup. Et donc la demi-finale et la finale du 110 est, c'est ce soir avec 4 Français au départ.
Tiens, j'en profite pour remercier la personne, malheureusement, m'a pas mis la petite carte avec, qui m'a envoyé un maillot du Stade Brestois à mon nom à la rédaction.
Peut-être voilà. Brendan Chardonnay, hein.
Ah ben c'est possible.
C'est Brendan Chardonnay. Je crois que c'est Brendan.
Il est magnifique ce maillot. Franchement.
Le résultat du contre-la-montre féminin.
Pas du foot pour autant.
Morgane Maury.
Ah, c'est pas passé loin pour Audrey Cordon-Rago, 4e au pied du podium, 26 secondes derrière la Néerlandaise Rejane Marcus. Le titre pour Marlène Reusser, la Suissesse. 2e position pour Hélène Van Dijk, la Néerlandaise. Marcus 3e et donc Audrey Cordon-Rago 4e. Juliette Labousse est sixième. Rendez-vous dimanche pour la course en ligne.
Et puis une autre information, cyclisme. Et là, je vais vous demander d'être attentif. On va être très précis. Le Colombien Nairo Quintana est disqualifié du Tour de France 2022. On vient de l'apprendre de l'UCI. La raison est une infraction médicale. Et je dis bien infraction médicale, car l'UCI explique dans son communiqué qu'il ne s'agit pas d'une violation des règles antidopage, mais d'une infraction médicale pour utilisation du tramadol en compétition. Le coureur peut faire appel de cette décision. Quintana a terminé sixième du Tour de France, juste devant le Français Romain Bardet. Il ne s'agit pas d'une infraction au Code mondial antidopage, il s'agit d'une irrégularité médicale. Voilà pour l'information brute telle que donnée par l'UCI. Dans un instant, on revient sur les 100 mètres d'hier soir, où on a pris énormément de plaisir chez les garçons et chez les filles. A tout de suite, c'est l'Intégral Sport sur RMC.
RMC.
Intégral Sport. RMC Intégral Sport.
Adrien Aiguin, Pierre Dorian.
Avec Marie-Zéven GP jusqu'à 18h, les championnats d'Europe de 10 disciplines en ce moment sur RMC. Bien sûr, place à l'athlétisme qui a démarré en tronc avec une grande soirée hier soir. On va y revenir tout de suite. Et puis la natation qui se termine là. On y sera à 17h. Dans quelques minutes, le premier médaillé de la semaine pour l'équipe de France d'athlé, c'est Jules Pommery. D'abord, nous allons revenir sur les 100 mètres masculins et féminins qui ont lieu hier soir dans une ambiance de folie, parce que nous allons démarrer par les femmes. C'est l'Allemande Gina Lückenkämper qui s'est imposée au millième devant la Suissesse Mujinga Kambuji et la Britannique Daryl Neita, d'autant que la Suissesse avait pris un petit peu d'avance et qu'elle a fini sur une remontée assez impressionnante, l'Allemande, j'allais dire poussée par le public, parce que le public était en feu.
C'est incroyable, le public.
Alors commençons par là, parce qu'elle a peut-être été poussée pour autre chose. Marie, ça a compté, parce qu'on a vu l'équipe d'Allemagne hier.
C'était absolument
déchiré, dingue.
La journée d'hier était dingue et le public est incroyable. D'ailleurs, on se serait cru dans un stade de foot. Ça chantait, ils balancent des musiques. Ils ont fait un hommage au décathlonien qui prenait sa retraite à Belé et qui pleurait, qui était en larmes sur la piste. Et clairement, cette jeune sprinteuse, on sentait qu'elle a été portée par ça. Après, ça a été une course de dingue, encore une fois, où on a trois filles pratiquement dans le même millième et où elle fait un cassé tellement poussé sur la ligne qu'elle se vautre complètement sur la ligne, qu'elle s'explose la jambe, elle était en sang à l'arrivée, la gamine. Et oui, c'était... Quelquefois, il n'y a pas besoin d'avoir des ultra-records, d'avoir des filles qui courent en 10-70 pour avoir une émotion. Cette course-là était vraiment une course à émotion.
Alors, poussée par le public, mais peut-être poussée par les pointes carbone d'Adidas.
Aïe,
Renault
Gadget.
Longuèvre.
Oui, c'est les bruits du terrain d'échauffement. Moi, je suis là pour vous rapporter les bruits du milieu, les bruits des coulisses. Et c'est vrai que depuis un mois et demi, il y a quelque chose qui se passe. Déjà, Gina Lückenkämper, elle s'entraîne aux États-Unis, elle s'entraîne à Claremont en Floride avec Lance Brauman. Lance Brauman, c'est l'entraîneur de Noah Lyles, c'est l'entraîneur de Shoney Miller-Uibo et tous ces gens-là, parce que il y a un camp Adidas en Floride. Hein, vous savez, c'est un groupe d'entraîneurs Adidas. Et c'est vrai que depuis un mois et demi, Adidas a lâché une nouvelle paire. Alors, faut pas non plus parler que du carbone. Il y a aussi une mousse révolutionnaire qui s'appelle le Pibax. Mais c'est vrai que force est de constater que à partir du 15 juin, écoutez la liste, hein, Noah Lyles, Alison Dos Santos, Trey Cunningham, Sacha Zoya, Wilfried Apio a gagné 1:04 en chaussant les nouvelles pointes à Yas Carmon. Mon petit coureur de 200 mètres israélien, Blessing Afrifa, je l'adore, je le connais par cœur. Il est allé au championnat du monde junior, 19:96 en junior. C'est le chrono du Usain Bolt en junior. Il a reçu les pointes, il fait 20:55 début juillet à Mannheim. Adidas va le voir, lui remet les pointes après sa course. Il les met pour la première fois en Colombie, 20:37 en série, 20:17 en demi-finale, 19:96 en finale. Et des mots même du jeune gamin israélien que j'ai avec moi tout le temps. Il me dit, c'est le feu sous les pieds. Voilà.
Oui, mais
donc moi je vous le dis,
oui,
je vous
non,
le
mais
dis,
ça, y a aucun
je
doute.
Pense que Adidas, Maryse, le message c'est Nike, vous avez voulu la jouer sale.
Bien
on
sûr.
Va la jouer sale.
Donc
il y a une guerre technologique.
Il y a une guerre technologique
et ce qui se passe c'est ça. Moi je décris les choses. Hein. Je suis ni Nike
oui,
ni Adidas ni Asics.
Mais moi non plus. Mais
ni Tilt.
À quoi tu ne crois pas, Maryse?
Ni Pony.
Ce n'est pas que je n'y crois pas. C'est qu'on sait qu'on est rentré dans une nouvelle ère technologique et que tous les records du monde sur les courses ont complètement explosé. Adidas, c'est pas qu'il a sorti une pointe révolutionnaire, c'est qu'Adidas avait du retard. C'est Nike qui a commencé, effectivement, qui a tiré le premier avec ses pointes carbone, puis avec la fameuse mousse, parce que c'est vrai qu'on en parle peu de cet amortissant qui finalement est un renvoi aussi de la foulée et de la force que l'on met dans l'appui. C'est Nike qui avait l'avance sur tout. Maintenant, ils en ont tous sorti. Puma, New Balance, Adidas.
Où est-ce qu'on s'arrête du coup? Mais est-ce qu'il faut s'arrêter?
Non, on ne va pas s'arrêter.
Les instances doivent prendre des décisions, disons on arrête.
Elles ont déjà pris un certain nombre de décisions, c'est-à-dire que les pointes sont examinées, toutes les pointes qui sortent sont examinées. J'ai failli parler moitié anglais, elles ont roulé, j'allais dire. Elles ont réglementé sur la hauteur de la chaussure, parce qu'on te fait, d'ailleurs c'est le cas de cette chaussure Adidas qui est quand même assez haute, on te fait effectivement des chaussures qui sont de plus en plus hautes sur la piste avec de plus en plus d'amortis. Donc elles ont réglementé là-dessus, mais pas sur la plaque carbone, elles l'ont validé. À partir du moment où c'est validé, nous sommes dans une nouvelle ère de l'athlétisme. Alors certains le regrettent.
J'ai oublié le chrono massif de Toby Amouzane, parce qu'elle n'avait pas les carbones, mais elle avait quand même le Pibax et la double chaussure Adidas.
Sauf que Sydney McLaughlin n'avait pas les points de carbone aux championnats du monde, et elle a explosé, elle a atomisé, elle a pulvérisé le record du monde du 400 mètres haies.
Donc, alors, en tout cas,
et attention, ça ne convient pas à tout le monde, parce que tout le monde en fait des gorges chaudes, mais on compte pas aussi les blessures avec ces chaussures-là. Ça ne convient pas à tout le monde, cette espèce de renvoi phénoménal où quelquefois le corps ne suit pas, parce que ok, ça te donne une puissance de plus dans le pied, sauf que si ton corps n'a pas travaillé pour l'assumer, si t'as pas la musculature, la souplesse, la flexibilité, la fréquence pour l'assumer, alors, ça part en vrille.
On s'arrête là parce que faut garder du temps pour les garçons. Gina Lückenkämper, donc équipée d'Adidas, a remporté le 100 mètres féminin. C'est la montre Marcel Jacobs qui a remporté le 100 mètres masculin. Alors pas vraiment challengé, hein. Il a eu l'air de maîtriser sa finale. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais qu'on s'arrête sur les Français, puisqu'il y a seulement Mohamed Oufal qui est allé en finale, cinquième en 10-17, c'est-à-dire à 4 centièmes du podium. La question, c'est est-ce qu'ils sont passés au travers? Parce que quand tu vois que le podium il est en 10-13, c'est des chronos que les sprinteurs français font quand même.
Ah bah oui. Ah oui, à la place, hein, Jimmy Vicco avait fait 10-10 pour arriver au championnat d'Europe. Jimmy Vicco qui a couru en 10-16 sa demi-finale. D'ailleurs, il est dans le top 8 si on prend le résumé, le récapitulatif de tous les coureurs du 100 mètres en demi-finale. Mais voilà, c'est le principe des hot seats, des deux petits culs. Il y a les deux premiers de chaque demi-finale et ensuite deux repêchés. Autant Jimmy Vicco était troisième dans sa demi-finale. Et puis derrière, c'est Mohamed Oufal justement qui l'a poussé dehors. Michael Zézé, lui, qui est arrivé avec son fameux 9,99, n'a réalisé que 10 secondes 21. Bon, ils étaient tous les deux déçus. Bah, Renault, je pense qu'on peut le dire, c'est quand même décevant, vu les chronos, de pas voir les trois Français en finale, vu leur chrono cette saison.
Oui. Après, les Anglais aussi avaient fait des chronos. Et puis Jacob, c'est champion olympique tout simplement. Voilà. Donc, mais oui, c'est une déception évidemment d'avoir qu'un seul Français en finale. Jimmy Vicco, bon, c'est quelqu'un qui faisait 9,95 facilement il y a quelques années. C'est dans la lignée de ce qu'il a fait cet hiver où c'était autour de 6,60, alors qu'avant la moindre sortie c'était 6,50. Donc Jimmy, il a pas réglé ses problèmes de mise en action. Il se redresse au bout de deux foulées et c'est pas le Jimmy de la belle époque, mais au moins il court et il est pas blessé. Après Mika Zézé à Monaco, c'était pas probant. 20,78 juste avant de venir, ça met pas en confiance. Et puis Mohamed Oufal, il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui est trois anneaux chauds et la FLD sur ses fesses. Donc de toute façon,
oui, mais c'est pas ça qui a causé la course qu'il a fait hier.
Non, mais ça aide pas non plus dans la tête. Ouais, ça aide pas.
Mais oui, ils sont passés à côté. Oui.
Pour moi, il y a une crise du sprint en France. Voilà, il n'y avait pas de filles dans la finale. Il y avait Mallory Lecomte qui était en demi. La crise est grave. Je veux dire, les meilleurs s'entraînent à l'étranger. Les meilleurs s'entraînent à l'étranger. Et puis voilà.
D'ailleurs, pour le petit clin d'œil et l'anecdote, Christophe Lemaitre a posté à 20h05 de demi-finale, la préparation physique se passe bien. Voilà, on en fait ce qu'on veut derrière. Mais c'était assez rigolo.
Peut-être qu'on évitera de laisser dans un placard un garçon comme Guillaume Tanon qui depuis deux années ou trois années n'a plus personne à entraîner et qui est parti du côté du rugby en préparation. Je pense qu'il nous a sorti un certain nombre de champions. Je m'arrête là parce que sinon je vais m'énerver.
Donc je suis d'accord.
Entre autres. Hein. Donc après on nous parlera de crise du sprint. Alors quels que soient les affinités des uns et des autres, à un moment donné, quand tu as un entraîneur que j'appelle pas un éleveur de champions parce que ça s'élève pas les champions. C'est un travail commun. On va dire que c'est une façon de parler quand on dit éleveur de champions. Mais quand t'as un gars qui t'a fait un travail comme il a fait, à commencer par Jimmy Vico d'ailleurs, ou Christine Aron et j'en passe, c'est des meilleurs. Peut-être pas des meilleurs, mais en tout cas d'aussi bons. Tu peux pas le laisser dans un placard. Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible.
Alors donc le titre pour l'amante Marcel Jacobs est globalement un résultat décevant pour les sprinteurs français. On espère donc ce soir sur le 110 mètres une belle surprise. La première médaille, elle est venue du saut en longueur avec un scénario là aussi de fou dans cette grande soirée d'athlètes d'hier soir. On continue d'en parler avec le médaillé de bronze Jules Pommery qui nous rejoint. Avant cela, on va aller retrouver Morgane Mori pour les championnats d'Europe de tennis de table. Il y a une médaille assurée qui s'ajoutera au bilan français demain, Morgane.
Oui, pour peut-être les plus jeunes de cette équipe de France, la fratrie Lebrun. Alexis Lebrun, 18 ans, son frère Félix, 15 ans. Il vient de l'emporter en quart de finale, 3-1 face à la paire Rezimski-Ursu. Ils seront en demi-finale demain et assurés au moins d'une médaille de bronze. Retenez ces noms, les frères Lebrun, Alexis et Félix. C'est la relève du tennis de table en France. Alexis est numéro 1 mondial chez les juniors.
Dans un instant, donc Jules Pommery, et puis on dira un mot aussi du 5000 avec la mésaventure et la grosse colère du français Hugo Hay, poussé et tombé en plein milieu de cette finale du 5000. A tout de suite, c'est l'Intégral Sport sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Adrien Aiguin, Pierre Dorian.
Avec Marie Zévangépi jusqu'à 18h. On est toujours en direct de Munich avec Renaud Longuèvre et Aurélien Tiercin au championnat d'Europe d'athlétisme qui continue ce soir avec une belle soirée et notamment de ce 110 mètres. Ouais. Mais hier, on a eu la première médaille française et il a fallu aller chercher avec les dents. Alors d'abord en sautant à 8m06, puis ensuite en posant une réclamation. On va raconter cette histoire avec le médaillé, le premier de l'équipe de France. Jules Pommery est donc troisième du concours de saut en longueur. Salut Jules.
Oui, bonjour, salut.
Bonjour. Comment ça va ce matin? Enfin ce matin, c'est plus le matin, mais au lendemain de cette première médaille pour l'équipe de France.
Ah, ça va. Forcément plus détendu qu'hier pendant l'attente, parce que finalement on a eu la décision finale aux alentours de 23h30, 23h40. Donc voilà, moi j'attends patiemment mon podium et je suis heureux.
Alors on va raconter ce qui s'est passé. Donc le grec Tintoglou a dominé le concours. Il n'y avait pas trop match, 8m52. Et puis derrière vous êtes trois finalement dans la même mesure, au centimètre près, 8m06, Tobias Montler, Jacob Fincham-Dukes et toi Jules. Dans ces cas-là on prend le deuxième meilleur saut. Et ça te classe quatrième. Il se trouve que l'essai du Britannique était peut-être légèrement mordu. C'est en tout cas ce que vous, équipe de France, vous avez considéré et vous avez porté réclamation. Raconte-nous comment s'est passé le concours, parce que je crois que c'est son tout premier saut, hein, en tout cas un des premiers, sur lequel il fait 8-0-6.
Ouais, tu peux pas dire qu'il était peut-être un peu mordu. Il était mordu puisque ça a été validé.
Oui, mais dans un premier temps, le saut est comptabilisé. Validé. C'est ça qui est surprenant. Toi, sûr, est-ce que tu comptais
c'est
sur...
La VAR. C'est la VAR qui a sauvé Jules.
C'est la VAR de l'athlétisme. Ben non, je dirais que ça a les mêmes défauts, puisque la VAR, dans un premier temps,
a validé, l'a
donné quatrième, et dans un deuxième temps, sur réclamation, on a reclassé Jules.
Tu savais que ce saut pouvait être annulé ou pas du tout, Jules?
Alors, déjà, deux précisions. Il n'y a pas que la France qui apporte réclamation, il y a aussi l'Espagne et la Suède. Oui, parce que Tobias Montler avait tout intérêt à ce que le saut soit disqualifié. Et ensuite, le saut a apparemment été annoncé mordu à la télé parce qu'on voyait -0,5. Alors que d'habitude, quand on est derrière la plasticine, on a plus quelques centimètres. Donc déjà là, les spectateurs, des témoignages que j'ai eus, ils étaient dubitatifs parce qu'ils l'avaient vu mordu. Après, moi, pendant le concours, non, j'avais pas du tout connaissance de ça. Pour moi, il avait fait 8,06 et on se battait pour le deuxième, quoi, ou faire mieux que lui. Mais je savais pas du tout qu'il était mordu. Et c'est à la fin, lorsque je me faisais ma quatrième place, que j'ai appris du staff français que il y avait potentiellement un mordu.
Alors, du coup, tu as vécu les deux situations, c'est-à-dire celle du médaillé et celle du quatrième. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es quatrième en ayant la même mesure, le même saut que le médaillé d'argent? Ça doit être une frustration terrible.
Ah oui, forcément frustré. Après, je peux me consoler en me disant que en saut pur, j'ai sauté plus loin que lui. Mais bon, c'est pas ça qui compte. Frustré, mais aussi c'est ma faute. J'avais qu'à sauter plus loin, tout simplement. On aurait pu s'éviter toutes ces histoires. Franchement, si j'avais fait 1m07, on n'en aurait pas parlé, tout simplement. Et puis ça montre aussi que la régularité doit rentrer en compte, parce que si mon deuxième saut était meilleur que le sien, encore une fois, on n'aurait pas eu à faire tout ça.
Alors, voilà. Tu as eu un sixième essai, juste après avoir être descendu du podium. Tu as eu un dernier essai pour aller rechercher une médaille. Et tu l'as complètement raté. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Alors, déjà, je venais de me faire dépasser par le Suédois Tobias Montler, que je connais parce que je l'ai vu durant 3-4 concours dans l'année. Je savais très bien qu'il était capable de me battre. Je pensais même qu'il allait faire plus que 8-0-6. Et tout simplement, le dernier essai, c'est l'essai où on a envie de tout donner. J'ai énormément d'intentions dans la tête, mettre du rythme, aller plus vite, mettre une boîte sur la planche, aller chercher loin dans le sable. Et tout ça mêlé au fait que je suis fatigué à la fin du concours. J'ai quand même les qualifs de la veille dans les jambes, 5 sauts précédents. Donc voilà, à la fin, j'ai beaucoup trop d'intentions. Je manque un peu de lucidité parce que j'aurais dû écouter mon coach qui m'avait dit d'avancer. Je me sentais bien, mais il a quand même l'expérience, j'aurais dû l'écouter. Voilà, c'est une petite erreur de jeunesse.
Et est-ce que tu étais marqué psychologiquement par le fait que le saut juste avant, c'est celui qui te prive du podium? Est-ce que ça a compté?
Non, parce que en fait, quand j'ai vu que Tobias n'avait toujours pas sauté, qu'il n'avait pas fait un saut dont il est capable, je savais qu'il allait le faire. Je savais que ça allait tomber. En Diamond League, il l'a fait au troisième à Monaco, il me semble. À Stockholm aussi, il s'était un peu sauvé comme ça. Je sais que mentalement, il est solide. Donc, je savais qu'à un moment donné, il allait nous embêter. Donc, franchement, moi, dans ma tête, j'étais prêt pour aller le battre à nouveau, quoi. J'étais paré à la guerre.
Alors, Jules, moi, j'étais fasciné par ce concours pour une raison très simple. Je connais particulièrement bien ton coach. On a exactement le même âge. On s'est côtoyé sur les stades. Robert et Mian, donc recordman d'Europe du 100 longueur, 8m86 à 22 ans. À 22 ans. Et un garçon qui mesure 1m78. Donc, t'imagines un peu. Toi, Jules, je crois que tu fais 1m80. Vous avez à peu près le même gabarit.
On est quasiment du même gabarit.
Et en fait, ce qui m'a fasciné, c'est, j'ai pas tout de suite réalisé. J'avais pas regardé mes stades. J'ai pas tout de suite réalisé que c'était Robert qui t'entraînait. Et j'étais en train de regarder le concours et je dis à ma fille, oh, c'est dingue, il me fait penser à Robert et Mian. Et puis après, deux secondes après, je dis, mais attends, mais c'est une évidence. Et j'ai trouvé que c'était exactement ça. L'envolée, il y a quelque chose qui est très spectaculaire dans ton saut. D'abord, ces grandes foulées très élastiques que tu fais au départ, tu dégages énormément de puissance et en même temps, tu as un saut qui est très aérien, c'est-à-dire qui est horizontal, forcément, mais qui est aussi très vertical, très haut. Et je me suis dit, mais quel pied il a, ce garçon, c'est étonnant. Vraiment.
Alors ça vient en partie du hand, parce que voilà, il faut savoir que j'ai fait 3 ans de pôle handball et pendant ces 3 années on m'a dit donne-toi du temps, saute à la verticale plutôt qu'à l'horizontale, voilà. Parce que avant j'avais fait de l'athlétisme déjà avant, et donc quand j'ai commencé le hand, j'allais à l'horizontale, j'avais pas de temps pour tirer, pas de temps pour réfléchir, jouer avec le gardien. Et donc toutes ces intentions de monter vers le haut, je les ai prises au hand. Ça m'a porté préjudice un petit peu quand j'ai repris l'athlétisme, parce que je me souviens que je me suis blessé aux chevilles, j'avais mal aux genoux, etc. parce que je venais trop buter. Je commence enfin à sauter un peu en longueur, mais je garde ce pied. Je pense qu'on est un peu, Robert et moi, du profil où on vient mettre une grosse boîte sur la planche et on s'exprime avec notre pied, quoi.
Mais avec quand même aussi beaucoup d'élasticité. Tu es souple naturellement ou c'est vraiment spécifique longueur?
Ça va. Mais et l'extension vient aussi de là. C'est pas parce que je m'entraîne avec Robert que je fais de l'extension.
Ouais, d'accord.
L'extension est venue avant que je m'entraîne avec Robert.
Et j'ai une question là-dessus. Dis-moi. Renaud Longuerre,
je sais ce que tu vas me poser.
Jules, comment vas-tu? Bravo! D'abord, j'étais dans les tribunes, j'étais devant le concours super émotion. Je suis hyper content pour toi, pour Robert. Tu sais qu'avec Robert, on s'adore. On a co-entraîné Loïse Le Sueur, Cafécien Gomis. On a gagné des médailles ensemble avec Robert. Et qu'on a aussi dans la suspension des convictions différentes. Est-ce que tu sais que sur ton saut à 8-0-6, t'as pédalé en l'air, mec?
Oui.
T'as pédalé en l'air.
Et c'est pas bon,
t'as
ça.
T'as fait du double ciseau. Mais non, mais lui, le sauteur en extension.
Ciseau simple.
Non, parce que regarde.
Alors, non, quel est le dilemme que... Moi, je comprends pas.
Non, c'est pas un ciseau simple. Regarde bien.
La remarque
parce que tu
parce
finis que avec Renaud le, tu finis avec le jambe gauche. Ah non. Moi, je veux rien, Maryse. Je veux rien. Mais j'ai des convictions. Mais j'ai vu Jules pédaler en l'air parce que tout simplement, il avait un déséquilibre avant qui s'est créé parce qu'il arrive avec un espèce de rythme.
J'ai été
surpris. Et que pour se rééquilibrer, il nous a fait un joli ciseau.
Alors, ton explication sur ce saut, Jules, justement, qu'est-ce qui s'est passé?
Ah ben voilà, ah bah il veut pas en parler parce que Renaud l'a vexé.
Ah, l'explication, c'est
allez, vas-y.
Allô, allô.
C'est bon,
alors, l'explication. Si vous voulez, les consignes, c'était de pas... Les conseils, c'était de pas trop marquer l'impulsion parce que j'ai tendance un petit peu à trop descendre à la cave, entre guillemets.
Oui.
Et là, sur ce saut-là, j'ai vraiment accéléré, vraiment mis du rythme avant la planche. Et j'ai été surpris, c'est sûr, les épaules sont parties en avant. Et donc, pour combler ce déséquilibre, j'ai balancé les petits. Si j'arrive à faire ce que j'ai fait avant le ciseau de manière équilibrée, ça pourra être une très bonne extension qui ira plus loin.
Très bien. Voilà. J'espère que Renaud Longuerre.
Vous avez noté? Interrompt le sprint demain.
Moi, je veux juste que tu ailles très loin, petit gars. Très, très loin.
Merci beaucoup.
Peu importe comment.
Tu m'expliqueras,
les
Renaud.
Bas, je m'en fiche.
En antenne, tu m'expliqueras quel est ton différent avec Robert. Ça m'intéresse en tant que coach quand même.
Ouais, bah, je te raconte.
Pas différent, mais
Jules Pommery, médaillé de bronze, donc 100 longueurs à 8m06. Renaud, merci. À demain. Aurélien, on se retrouve à 17h30
avec
pour
plaisir.
La grande soirée d'athlée, une nouvelle fois beaucoup de finales et puis ce 110 mètres qui nous met l'eau à la bouche. Avant cela, on va parler foot et Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'il est en train de vous décevoir, Cristiano? C'est tout de suite au 32-16 et puis les dernières infos transfert à Paris, à Lyon notamment. Restez bien avec nous, c'est l'Intégral Sport sur RMC.
RMC Intégral Sport.